Donc nous allons continuer cette exploration de ce texte sur Vimalakirti en abordant le sujet du chapitre peut-être central de ce texte-là, qui est le chapitre qui traite de la non-dualité. Donc un chapitre important, c'est celui, on va voir, qui débouche sur le silence de Vimalakirti. Et voir le sens que non-dualité pourrait avoir du point de vue philosophique et aussi du point de vue pratique. Vous remarquez que dans la tradition du bouddhisme ancien, on est dans une vision du monde assez dualiste, puisque dans le fond il y a la conscience et la matière, et que toute expérience n'est un peu de la rencontre entre cette conscience et cette matière qu'on appelle nama rupa. Et c'est une expression qui revient très souvent chez les maîtres de la tradition ancienne, de cette rencontre de nama rupa. Donc ici le jupa, qui est la forme, la matière, sont donc composés des quatre éléments, nous avons vu hier, et puis nama, le terme qui veut dire non, mais ici implique les différents aspects de la conscience et des facteurs mentaux. Donc c'est cette rencontre, dans le fond, de la conscience et de la matière qui est à l'origine de toutes les expériences. Et nous avons vu aussi dans les vérités ultimes que pose le bouddhisme ancien, on a les quatre éléments, donc la matière, les facteurs mentaux et la conscience. Donc ici, on est dans un système qui est manifestement duel, réaliste, on pose cette existence de la matière. Mais dans la pratique méditative, qui est un peu commune à presque toutes les traditions, traditions mystiques, même si mystique est un terme un peu mystérieux, connotation mystérieuse, ce qui n'est pas le cas, c'est l'inverse. Dans la pratique méditative, on arrive au contraire à quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, c'est pas quelque chose qui serait caché. Ce terme-là, mystique, semble s'appliquer à des descriptions qu'ont pu donner certains saints, chrétiens ou autres, dans un vocabulaire un petit peu imagé comme ceci, mais dans l'expérience méditative, mais c'est au contraire, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, beaucoup plus évident qu'une perception sensorielle, que ce qu'on rencontre dans la vie quotidienne. Comme je l'ai déjà mentionné, ce qui va animer, ce qui va intéresser l'expérience intérieure, c'est de se dire, dans le fond, on peut se tromper ou être trompé par nos croyances. C'est comme ceci, c'est comme cela. Et on va essayer de se dire, qu'est-ce que ça pourrait être une expérience, un vécu qui ne s'appuierait pas sur aucune croyance? Est-ce qu'on arriverait à quelque chose de tellement dépouillé que justement il n'y aurait plus de marge d'erreur parce que c'est pas dépendant de ce qu'on aurait appris, de ce qu'on croit? Arriver à se dépouiller de toute croyance pour dire alors qu'est-ce qui reste à ce niveau de l'expérience qui soit indubitable puisque c'est pas basé sur une manière de penser. Donc dans le cheminement méditatif, alors toutes les traditions vont avoir leur manière de décrire ceci, mais on a l'impression qu'il y a ce même mouvement de ne pas s'attacher aux croyances. On ne réfléchit pas. D'autres pratiques spirituelles où on réfléchit, pas l'ombre d'un doute, mais dans ce sens-là, non. Dans la tradition bouddhique, comment est-ce qu'on peut décrire ceci? Dans la manière dont nous plaçons la pratique, on voit bien, on essaye de ne pas être ni perdu dans le passé, ni perdu dans le futur, qui évidemment sont des pensées, des souvenirs, de l'imaginaire. On se rend bien compte qu'on peut laisser tomber ceci, que ceci ne donne pas nécessairement accès à quelque chose de dépouillé, et cet imaginaire, ces souvenirs dépendent de beaucoup de choses personnelles, et on essaie d'atteindre quelque chose qui dépasse justement tous nos habitudes et nos conditionnements personnels. Alors si on laisse tomber ce qu'est l'ordre du passé, du futur, et qu'on reste dans l'expérience présente, à ce moment-là, eh bien, on peut éprouver dans l'expérience présente de la somnolence, de la tranquillité, de la joie, des sensations corporelles, l'audition de certains sons, la vision de forme, le goût, toutes les expériences sensorielles, évidemment. Donc il y a là, dans l'expérience même, il y a un contenu, pour prendre des termes assez simples, un contenu qui est, dont on est conscient de ce bruit qui surgit. Vous êtes conscient ici du son de ma voix, et peut-être même du sens des mots, donc il y a conscience de quelque chose. Conscience et conscience de quelque chose. Quand on voit les formes, les couleurs, la salle, il y a aussi conscience de formes, de couleurs. Donc conscience de quelque chose, conscience d'entendre, conscience des bruits, conscience des formes et des couleurs, conscience du goût, conscience des odeurs, conscience du tangible dans la sensation corporelle et conscience de pensée ou d'image lors de la pensée. Et en général, tout l'intérêt que nous avons, il porte sur le contenu, parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous pourriez très bien maintenant, dans la méditation, ne pas vous intéresser à ce que je dis et vous intéresser simplement à l'audition. C'est une voix, c'est un son assez étonnant dans le fond, d'être juste dans l'audition, ce qui fait que vous préoccuperiez plus du sens, mais simplement du son. Et puis ensuite, vous pourriez aller un peu plus loin en ne vous attachant pas au son, mais dans le fond à simplement la conscience d'entendre. Vous voyez, il y a à chaque fois quelque chose de commun dans toutes les expériences, c'est que le fait qu'il y ait conscience de quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas essentiel dans l'expérience, mais il y a toujours conscience. Donc lorsque le méditant, la méditante se désintéresse du contenu de l'expérience, de ce qui est entendu, de ce qui est vu, etc., eh bien à ce moment-là, la conscience se relâche et c'est comme si le contenu, eh bien il était plus important et finit par disparaître. Où chaque expérience révèle la conscience, révèle la présence, et on se préoccupe plus de ce qu'elle révèle. Ce qu'elle révèle est peu d'importance. Je veux donner un exemple pour que peut-être on comprenne mieux. Un maître de la tradition de la forêt, Ajahn Mah Boah, il décrivait une méditation très très simple sur la respiration. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on est dans un cadre très très simple, la prise de conscience de la respiration. On peut imaginer tout d'abord du va-et-vient de la respiration, on est dans quelque chose d'assez élaboré, voilà. On est conscient de l'expiration, de l'inspiration, voilà. On n'est pas trop perdu dans le passé, dans le futur, on est dans quelque chose qui se passe dans le présent. Toutefois là, il y a quand même un concept, qui est le concept d'inspiration ou d'expiration, alors que ce qui est vécu, c'est pas inspiration, expiration, c'est des sensations corporelles de densité, qui par moments sont plus légères, par moments plus lourdes, selon l'instant du processus. Donc le méditant, la méditante, ne s'intéressant plus à cette notion inspiration, expiration, reste plus dans la simple perception d'une sensation corporelle, de légèreté, de lourdeur, de température. Donc l'esprit là se calme, il devient évidemment plus tranquille, il est plus aspiré par les sons, par les pensées, par les souvenirs, il est simplement là, dans cette expérience de la sensation corporelle qui accompagne naturellement ce mouvement de la respiration. Donc il y a ces expériences de lourdeur, légèreté, de chaleur. Et puis quand l'esprit se calme encore, eh bien finalement il se désintéresse de cette expérience de lourdeur, de chaleur, etc. Il n'y adhère plus, et à un moment donné, ce qui reste uniquement, c'est la conscience. Et non pas parce que tout d'un coup le corps a disparu, mais simplement parce que la conscience ne s'investit plus dans quelque chose, il reste que cette expérience de pure conscience. Dans un processus complètement naturel, et cette expérience de la pure conscience, elle est d'une évidence, puisque c'est pas basé sur une pensée, c'est même pas basé sur une perception. On pourrait imaginer que ma vision est un peu trouble ou que j'ai un problème d'audition, puisque là il n'y a plus d'intermédiaire, il y a une évidence dans cette expérience-là. Il n'y a pas de temporalité, parce que la temporalité, il faudrait une pensée avant, après, maintenant. Il n'y a pas de temporalité, complètement hors de la temporalité. Il n'y a ni d'intérieur ni d'extérieur. Il faudrait encore élaborer des contenus ici ou là. Il n'y a plus que cette expérience de la pure conscience. Hors temporalité, hors toute notion, si ce n'est conscience. Donc il n'y a pas de moi, là, il n'y a pas ma conscience, je, ça c'est encore des pensées qui devraient surgir, elles ne surgissent plus. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de localisation. Il n'y a pas de localisation parce que pour localiser quelque chose, il faut deux points. Là, il n'y a pas deux points, il y a juste la pure conscience. Donc ici, on parle d'un développement où on arrive à ceci de manière tout à fait naturelle, et c'est des choses qui sont d'ailleurs pas propres au bouddhisme, qui sont propres à une sorte de cheminement intérieur où on essaye de se défaire un peu de tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'élaboration. Donc ce désintérêt, on peut dire qu'on l'a déjà abordé un petit peu hier dans le sutra où on avait Malunkyaputta, le vieux, où le Bouddha disait dans la vision, il n'y a que la vision. C'est-à-dire, il n'y a pas d'objet vécu, il n'y a pas d'objet vu, ni de sujet qui voit. On est déjà dans l'expérience. On pourrait dire que c'est le processus naturel qui amènerait à ça. J'ai pris un autre sutra aussi pour mentionner ceci, où le Bouddha s'adresse aux moines, qui ne pose pas, en général, il répond à des questions, mais là, c'est lui qui s'adresse directement aux moines, et il dit, dans cet univers, assez complexe dans la tradition bouddhique et dans la tradition indienne, tout ce qui est vu, entendu, goûté, senti, pensé, donc il essaie de couvrir toutes les expériences, il dit, par tous les êtres, par les devas, par les dieux, par les, alors il donne les brahmas, les yamas, par les méditants, les prêtres, les êtres ordinaires, etc., les animaux, tout ce qui est vu, entendu, senti, goûté, etc., et pensé, on ne peut pas dire que le Bouddha ne l'a pas vu, senti, goûté, etc. Donc ici, il essaie de donner le contexte. Il ne faudrait pas croire qu'il y a une sorte de déficience. Ce qu'on vient de décrire, on pourrait dire que la personne a perdu la capacité de voir et d'entendre. Donc ici, ce n'est pas ce dont il veut parler. Il dit, on ne peut pas dire que le Bouddha ne voit pas ceci, n'entend pas ceci ou n'a pas pensé. Il y a des choses qui lui échappent. Mais quand... dans la vision, quand le Bouddha voit, il ne crée pas un objet vu, il ne crée pas un sujet voyant, il ne crée pas la dualité sujet-objet. Vous voyez, une création, la notion de sujet d'objet. Donc dans l'expérience elle-même, dans la vision, hier on a exprimé ceci, dans la vision il n'y a que la vision, ici eh bien, c'est la même chose qui est exprimée, il ne crée pas, le Bouddha ne crée pas, lors de la vision, un sujet qui voit est quelque chose qui est vu, un sujet qui entend est quelque chose qui est entendu, un penseur qui pense une pensée. Il dit à ce moment-là, bon, il n'y a pas de sujet ici ou là, ni entre les deux. Il parle de cette unicité dans l'expérience et il dit que ça c'est la libération. Deux ou trois sutras qui expriment ceci. À ma connaissance, je ne connais pas tous les sutras, mais il y en a deux ou trois qui disent la même chose. Donc on arrive dans ce dépouillement, je reviens un peu à cette description de la pure conscience, pour utiliser un terme assez vague et assez général, on arrive avec quelque chose qui est de l'ordre, d'une certaine manière, de l'unité. Il n'y a pas de multiplicité. Maître Eckhart dit qu'il faut se libérer de la personnalité, de la temporalité, de la multiplicité. On arrive à quelque chose de l'ordre du dépouillement, ce qui fait que tout ce qui était perçu, vu, entendu, pensé, tout ceci de cette perspective-là paraît purement imaginaire, paraît quelque chose de l'ordre de la création, hein. Imagination, créer. Maître Eckhart à nouveau, il dit, toutes les créatures sont pur néant. Toutes les créatures, c'est tout ce qui est créé, hein. Tous les objets, les personnes, etc. Il dit, tout ça, c'est pur néant. Et il dit bien, d'ailleurs, dans le texte, dans ses sermons, plusieurs, il dit, je dis pas que c'est pas grand chose, il dit, c'est pur néant. Donc, du point de vue de cette pure conscience, pour venir à ceci, eh bien, tout ce qui surgit dans la conscience comme connu, comme contenu, apparaît comme quelque chose qui manque de réalité, qui manque de solidité. C'est quelque chose. C'est la manière dont la conscience se manifeste par moment. Et la conscience, elle se manifeste sous la forme d'un d'un son, d'une forme, d'une image, d'une pensée. C'est toujours la conscience qui se manifeste sous ces formes-là. La manière dont la conscience peut être consciente d'eux ou connaître, c'est de se manifester sous tout ceci. Donc, dans cette perspective-là, tout ce qui se manifeste, tout ce qui est entendu, connu, vu, etc., paraît illusoire. Et on a des descriptions, donc dans les traditions, on dit voilà, de Maître Eckhart, toute la créature est pure néant, et puis dans la tradition hindoue aussi, c'est l'illusion, c'est le jeu de illusoire de Vishnu, par exemple. Donc dans cette pure conscience, il n'y a pas de notion de ceci et cela. Il y a là un sentiment d'unité. Alors on pourrait, cette expérience-là, bon, expérience similaire, parce que je ne sais pas, hein, il faut faire attention à comparer les différents systèmes mystiques, de poser comme a priori, elles arriveraient tous au même endroit, c'est un petit peu léger, mais prenons un petit peu quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est dans cette expérience-là, on a l'impression que on va pouvoir l'exprimer de diverses manières. On verra, les hindous parlent de pure conscience, et que les chrétiens parleront différemment. Ils pourront parler de Dieu, de ce qui est informe, etc., de ce qui est insaisissable. Parce que, vous voyez, cette pure conscience, elle n'est pas saisissable. Si on veut la saisir, on essaie de la ramener à un concept. Alors, dès qu'on la saisit, on l'a perdue. Elle n'est pas possible de la saisir. Donc, elle reste comme ceci. Un grand poète qui avait des expériences assez claires de ceci, c'est Paul Valéry. Il parle dans ses textes, dans ses poèmes. Il dit d'ailleurs que la seule chose que j'ai jamais essayé d'exprimer à travers mes écrits, c'est, il parle du moi pur. Un autre langage, mais moi pur, qui est vraiment complètement dépouillé. Il dit, je le compare volontiers au zéro de l'écriture, pour dire, il n'y a rien. Il dit, la connaissance est point d'objet. Hein, exactement là, il n'a pas lu les textes bouddhiques. Il dit, la connaissance est point d'objet. On préfère dire, la conscience est point d'objet. Donc c'est une expérience qui va dans un processus naturel, dans la mesure où on ne s'intéresse pas à tous ces contenus pour essayer de découvrir ce qu'il pourrait y avoir au-delà de ça. Vous pouvez employer un vocabulaire assez simple. Donc on a l'impression là qu'on a affaire à un absolu, et même on pourrait se dire, ça semble assez difficile d'aller au-delà de ceci. Donc est-ce qu'on aurait ici le but de toutes les traditions, de tous les mysticismes, de toutes les pratiques de yoga profond? Est-ce que là, on a le point ultime de ce développement-là? Vous voyez, une des difficultés qu'on va rencontrer, c'est que cette conscience pure, j'emploie un terme assez général, cette conscience pure, eh bien, elle n'est pas créée, elle ne surgit pas. Toutes ces notions-là sont des notions qui seraient connues par la conscience. Donc la conscience pure, elle n'est pas créée, elle ne surgit pas. On ne peut pas dire qu'elle dépend de quelque chose. Tout ceci, c'est des histoires qu'on se raconterait depuis la conscience. Donc ce qu'on va décrire dans cette sphère-là, c'est toujours de l'ordre de l'insaisissable. Parce que tout ce qui sera saisi, ça va être une construction. Les hindous parlent de ceci, ils décrivent ceci comme étant Sat, Chit, Ananda. Sat, c'est la vérité, réalité. Chit, c'est la conscience. Ananda, la béatitude. Ils disent, voilà, ceci, ce point ultime, c'est réalité, conscience et béatitude. Et quand on parle dans la tradition hindoue, de manière importante, que l'équivalence de Brahma et de l'Atman, l'Atman, c'est, on pourrait dire que c'est la conscience individuelle, non pas personnelle, mais individuelle, elle est la même chose que cet absolu, cette conscience absolue, si vous voulez, qui ici serait le Brahman. Donc on parle de non-dualité dans la tradition hindoue. La non-dualité, c'est entre entre soi et l'absolu, le Brahman. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de différence. Mais le soi dont on parle ici, dans la tradition hindoue, c'est très clair, c'est pas un moi avec toutes ces petites histoires personnelles, limitées, etc. C'est un soi qui correspond à cette conscience parfaitement dépouillée. Là, les textes sont très clairs, on revient constamment là-dessus. C'est-à-dire ce qui surgit, ce qui change, ce qui se transforme, c'est pas le vrai soi. Le vrai soi est ce qui est au-delà de toute transformation, de toute évolution. Donc ce qui correspond bien à cette pure conscience. Mais on verra que dans la tradition bouddhique, on n'a pas ce point de vue-là. On a un autre point de vue, même si quelquefois, il y a eu des confusions. J'ai une citation ici du grand maître du Zen Dogen, le grand maître japonais, et qui s'adresse à des systèmes au Japon, ou des moines ou des maîtres au Japon qui enseignent ceci. Il dit, ces gens-là sont dans l'erreur. Il dit, voilà ce que disent certaines personnes qui sont dans l'erreur. Ils disent, l'esprit, par contre, est éternel, immuable, dans le passé, dans le présent et le futur. Savoir ceci, c'est se libérer du samsara, certains disent. On le nomme également le vrai moi, le fondement de l'éveil, la nature foncière ou l'essence primordiale. Voilà ce que certains maîtres enseignaient au Japon. Et Dogen, le grand maître Zen, il dit, ce sont des gens qui sont dans l'erreur. Alors que cette manière-là de s'exprimer, elle irait très bien dans beaucoup d'autres systèmes, notamment dans le système hindou. Donc il y a une différence qu'il est important de comprendre, non pas parce qu'on veut être des spécialistes de l'hindouisme et du bouddhisme, mais simplement parce que pour comprendre cette nuance qu'on va faire ici, ça demande une bien plus grande compréhension du système bouddhique. Ça demande, c'est quelque chose d'assez subtil, et à l'heure actuelle, dans un monde où les gens sont pressés en général, voilà, on entend que c'est la même chose, l'Advaita, le bouddhisme, tout ça c'est la même chose. J'ai jamais aux États-Unis qu'enseigner le bouddhisme, mais maintenant j'enseigne la non-dualité, et puis on a l'impression que voilà, de toute façon tout le monde pense la même chose, c'est chouette, on va tous au même endroit, etc. Vous voyez, c'est une sorte de package tour pour le nirvana, comme ça. Voilà, alors, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, on peut pas prendre ceci comme a priori parce qu'on n'a pas envie de voir les difficultés et pas envie de réfléchir. C'est plus simple de dire tout d'abord, bah, tout le monde dit la même chose, quoi. Vous avez tous raison, alors que tout le monde est dans le désaccord. Et ça, évidemment, c'est pas mon point de vue, parce qu'on s'en fiche un peu de mon point de vue, mais eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Les bouddhistes et les hindous, on pense pas la même chose. Le grand maître de l'Advaita, Shankaracharya, il a accusé les bouddhistes d'aller trop loin dans leur système. Les bouddhistes ont dit Shankaracharya, ils s'attachent à quelque chose. Donc ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et puis on revient 5-6 siècles plus tard, puis on dit, de toute façon, ils disaient la même chose. C'est quand même un petit peu vite traiter la question. Donc si on écoute un peu leur manière de dire, on ne dit pas la même chose. Donc à ce moment-là, ça nous oblige d'approfondir un petit peu ceci. Donc là, j'ai cité cette phrase de certains maîtres japonais, accusés par Dogen. Si on prend une phrase du Rig Veda, il dit « La conscience pure n'a ni naissance, ni destruction, pas même de stabilité. La pure conscience innée, brillante, est comme l'espace, elle ne se transforme pas. » On va rencontrer une difficulté parce que, en parlant de quelque chose qui est au-delà, on verra que le même vocabulaire pourrait s'appliquer dans presque la totalité, à deux points de vue différents. Mais ces points de vue sont différents de l'ordinaire quotidien, alors tout d'un coup, le même vocabulaire, ils disent la même chose, parce qu'on a l'impression qu'ils utilisent le même vocabulaire, comme on vient de le voir ici, mais c'est quand même différent. Donc dans le bouddhisme, dès le bouddhisme primitif, le Bouddha s'oppose à un absolu que les hindous appelaient Brahma. Il s'oppose à ceci. Pour lui, c'est constamment, quand il rencontre les discussions avec les ascètes locaux, etc., il réfute ceci. Et par la suite, dans l'évolution du bouddhisme, on a parlé un peu du Mahayana et autres, on a l'impression que tout d'un coup, il y a eu au Tibet aussi, certaines traditions qui semblent revenir sur cet absolu comme la conscience pure, parce que c'est parce que ça donne quelque chose en quoi croire. Un absolu, c'est super. C'est un absolu, c'est une totalité. Voilà. Au moins, on a quelque chose. Ça nous donne quelque chose à nous mettre sous la dent. Donc on a eu tout un système. Au Tibet, on a mis en avant cet absolu. Donc on l'avait aussi au Japon, on voit que Dogen le place ici. Ce qui veut dire que pour l'Advaita et autres, la non-dualité, elle débouche sur quoi? Elle débouche sur une unité. On a aussi ceci dans le christianisme et dans la philosophie grecque avec le néoplatonicisme, où on place cette unité comme quelque chose qui est l'absolu qu'on vise, c'est l'unité. C'est déjà pas mal de questionnements par rapport à notre manière de percevoir le monde. Je vous cite ici une phrase On va aborder ces différents types de dualité. Donc on voit ici qu'une des premières conséquences de la non-dualité, si on ne s'attache pas à ces, ici à une conscience, un sujet qui saisirait un objet, une des premières conséquences tout à fait naturelles dans ce dépouillement, c'est d'arriver à quelque chose qui est une conscience pure. Et ça, dans le chemin bouddhique, c'est aussi quelque chose par lequel on peut passer de manière claire. Qui est décrite comme quelque chose à dépasser. Donc dans la tradition bouddhique, on ne placera pas que la non-dualité implique l'unité. La non-dualité ne veut pas dire l'unité. Ils ne sont pas du tout équivalents. La non-dualité veut dire non-dualité. Elle n'implique pas autre chose. Dans le chapitre sur la non-dualité du Vimalakirti, alors beaucoup de personnages sont appelés à se prononcer. Comment eux comprennent la non-dualité? C'est des personnages de la tradition bouddhique. Alors, tous expriment cette non-dualité d'une manière ou d'une autre, et qui sont intéressantes. C'est toutes des manières approximatives d'aborder la non-dualité. Alors, voilà, je vous cite un petit peu ces non-dualités qui sont évoquées, mais qui sont importantes aussi pour la pratique. Alors, le Bodhisattva dit entre le moi et le mien, il n'y a pas de dualité. Ce ne sont pas deux choses séparées. Ensuite, le Bodhisattva dit entre la souillure et la purification, il n'y a pas de dualité. Vous voyez ce que ça veut dire? Si on dit entre la souillure et la purification, bon, des fois c'est un langage un peu archaïque qui est utilisé en français, je veux dire, un peu démodé, mais ce qui voudrait dire qu'on n'est pas dans le chemin spirituel en train de se battre contre ce qui serait pur et impur. Si on oppose ce qui est pur et impur, eh bien on attache des valeurs à ces choses-là et on s'enferme dans cette chose-là, pure et impure. On enlève, voilà, j'ai une pensée impure, on va créer une pensée pure pour faire l'équilibre. Donc dans cette optique-là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du réaménagement de l'ameublement de la prison. On n'arrange rien, on améliore un petit peu les choses, mais on n'est pas du tout dans le fait de pouvoir dépasser le conditionnement. Donc, pur et impur. Et il dit distraction et attention. De placer comme distraction et attention, comme cette dualité, ce Bodhisattva, il dit il n'y a pas de dualité entre distraction et attention. Alors, vous voyez dans notre méditation ce que ça veut dire, on est distrait. Non, moi, faut pas être distrait, je vais y revenir là, etc. Si on est dans cette opposition, il faut s'opposer à la distraction pour développer l'attention. On comprend bien ce que, pratiquement, c'est assez simple. C'est bien ce qu'on rencontre quand on s'assied. Mais si on pense que c'est une valeur juste, on oppose la distraction à l'attention, ça veut dire qu'on donne des valeurs spécifiques. L'attention, c'est le fait de rester sur un domaine d'expérience particulier. La dissipation, la distraction, c'est de passer de l'une à l'autre. Et si on les oppose, à ce moment-là, on donne de la valeur à ces aspects-là. La distraction est quelque chose qui, en soi, serait un obstacle, et l'attention serait quelque chose qui, en soi, serait un bien-être. Mais ça donne une valeur, un degré d'existence à la distraction, un degré d'existence à l'attention. Dans la tradition tibétaine du Dzogchen, deux maîtres se rencontrent et un maître dit, alors qu'est-ce que tu pratiques toi? Alors un maître dit, moi je pratique le Dzogchen, et alors l'autre se moque de lui, il dit, ouais, alors toi, ça veut dire que tu laisses ton esprit divaguer, je veux dire, tu t'en fiches de ce qui se passe. Et puis le maître qui pratique le Dzogchen, il lui dit, mais dis-moi, où est-ce que l'esprit pourrait divaguer? Il lui dit, tu places ton attention nulle part, il dit, mais où est-ce qu'on pourrait placer l'esprit? Pour dire, c'est déjà en se plaçant dans, il y aurait une zone où l'esprit pourrait se perdre et une zone où l'esprit ne pourrait pas être perdu, c'est déjà dans une grande confusion. Donc il se place ici à un niveau qui dépasse cette dualité. Il dit, où on va pouvoir se perdre? Où on va pouvoir se retrouver? Il n'y a pas d'endroit où on se perd, on se retrouve. Et dans la méditation, quand on parle de, plutôt que, quand on est perdu, plutôt que de revenir à une zone d'ancrage, comme nécessité, mais de dire, où est-ce que je suis quand je suis perdu? C'est exactement ça, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas d'endroit où on peut être perdu. On peut très bien être présent à une somnolence, comme je l'ai mentionné, on peut être présent à l'agitation, il y a cette qualité-là dans toute expérience. Donc ici, on n'est pas dans le fait de donner une solidité à la distraction et à l'attention, comme si il y avait quelque chose en soi dans la distraction qui serait nocif et en soi dans l'attention qui serait positif ou utile. Vous voyez cette opposition? Donc ça donne dans l'assise une sorte d'absence d'a priori. On ne va pas être dans une lutte constante. On n'est pas dans la lutte où il va falloir promouvoir ceci, éliminer cela. Au contraire, c'est dans cette disponibilité, on va se rendre compte que la distraction, dans le fond, elle distrait de rien du tout. Elle distrait quand tout d'un coup, on en fait quelque chose à quoi on doit s'opposer. Je suis dans la rêverie comme ça, ah, mince, je rêvasse, je suis pas là pour rêvasser, je reviens aux sensations dans l'abdomen. C'est très pratique, on comprend bien. Mais si quand je rêvasse, je prends conscience de ce qui se passe à ce moment-là, je ne suis pas perdu. Donc ces manières d'exprimer cette non-dualité dans ce chapitre-là, sur la non-dualité, sont intéressantes parce qu'elles nous donnent tous quelques indications. Elles sont pas, même si elles ne sont pas ultimes, on verra, mais elles sont quand même très intéressantes. Ensuite, Bodhisattva dit, entre bien et mal, il n'y a pas de différence. Là aussi, s'attacher à faire des valeurs ultimes du bien et des valeurs ultimes du mal, à ce moment-là, on s'enferme aussi. Et ensuite, il dit, entre la sagesse et l'ignorance, il n'y a pas de dualité. Donc là aussi, hein, évidemment, on est dans un niveau différent. On a vu hier dans la manière d'aborder l'inconditionnel conditionné, que si on se passait si on essayait d'aborder le chemin spirituel depuis le conditionné, on était dans une impasse parce qu'on n'arrivait qu'à bricoler une sorte d'inconditionné qui était vraiment pas très solide parce qu'il dépendait de tellement de choses. Bien là, de cette manière-là, en faisant une opposition entre sagesse et ignorance, ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose. Sagesse, ça voudrait qu'il y aurait quelque chose à connaître qui serait juste, et l'ignorance, quelque chose qu'on connaîtrait qui serait faux. Il y aurait une manière juste de connaître, une manière fausse de connaître. Et ensuite, Bodhisattva répond en parlant d'une manière très proche des Prajnaparamita, donc des textes qui parlent vraiment de la vacuité, dans l'impression qu'il reprend presque les Prajnaparamita, en parlant de ce qui constitue l'être humain, les cinq agrégats, montrant aussi qu'il n'y a pas d'opposition, qu'ils ne sont pas dans la multiplicité. Et ensuite, il dit la complaisance pour le nirvana, la répugnance pour le samsara, c'est une dualité qu'il faut dépasser. Complaisance pour le nirvana, répugnance pour le samsara. Non, on va méditer pour se libérer. Donc on veut s'opposer à ce qui nous enferme, nous conditionne. Et ce qui est chouette, c'est le nirvana, c'est la liberté, ça c'est les vacances, c'est super. Cette opposition-là est déjà enfermement puisque on aborde le chemin depuis le conditionné. On n'arrivera pas. Parce que dans cette opposition-là, on place une existence, on donne un degré d'existence au nirvana, l'inconditionné, on donne un degré d'existence au conditionné, et puis tout d'un coup on est bloqué, on n'arrive plus à se rendre compte comment ça serait possible même de passer de l'un à l'autre. Et je me souviens de ce que disait mon maître Khyentse Rinpoche, il disait que le fou croit que le samsara est quelque chose dont il faut se défaire et que le nirvana est quelque chose qu'il faut atteindre. Et il disait dans un enseignement comme ça, donc pas en parlant de la plus haute philosophie. Donc voilà, la manière d'aborder la pratique qui nous enferme est de croire que le samsara, le conditionné, est quelque chose à éliminer et le nirvana à atteindre. Ça, c'est cultiver la confusion. Donc, évidemment, on ne parle pas ici de bien-être. On n'est pas dans un système de méditation qui viserait le bien-être, un peu moins de fatigue, un peu plus d'attention, un peu moins de stress. Toutes choses qui sont bonnes. Hein, ça ne veut pas du tout dire qu'elles ne sont pas bonnes. Ici, on est quand même dans un des textes, si ce n'est pas le texte le plus profond de la tradition bouddhique, on est quand même dans une autre préoccupation. Et puis on arrive finalement à Manjushri, parce que tout le monde a parlé, c'est le dernier à parler, Manjushri, le bodhisattva de la sagesse. Et lui, il dit à tous ces bodhisattvas, à tous ces personnages qui ont parlé, il dit, bon, vous avez tous bien parlé, il est poli, vous avez tous bien parlé, mais il dit, je vois encore dans vos paroles un aspect de dualité. Donc vous exprimez pas vraiment la non-dualité, il y a encore quelque chose de l'ordre de la dualité. Alors, on lui demande lui de s'exprimer, alors voilà, Manjushri, lui, il dit, ne rien dire, ne rien exprimer, ne rien enseigner, ça c'est entrer dans la non-dualité. On a presque l'impression que c'est un peu facile, mais bon. Et puis alors Manjushri se tourne vers Vimalakirti, et puis il dit, bon bah maintenant, on voudrait quand même savoir le point de vue de Vimalakirti, quoi, c'est quand même son sutra. Bon. Alors on doit savoir qu'est-ce que Vimalakirti a à dire. Et c'est là que Vimalakirti reste dans le silence. Il ne s'exprime pas. Alors maintenant, évidemment, on a silence et silence. Il y a un silence, le silence de la personne stupide qui ne sait pas de quoi on parle. Et puis il y a un silence qui est un silence complètement assumé. Ici, on verra pourquoi il y a ce silence qui est très important. Donc on a vu ici toutes sortes de non-dualités qui nous éclairent un petit peu pourquoi on pratique de la manière dont on pratique. On a vu aussi que un type de non-dualité déjà assez profonde amène à cette unité de la pure conscience, du pur être. On entend à l'heure actuelle pas mal de gens qui parlent de ceci et qui sont en accord, ce pure être, pure being, conscience pure, qui sont en accord avec la tradition hindoue de l'Advaita et aussi avec certains systèmes bouddhiques. Il y a certains systèmes bouddhiques qui s'expriment dans ces termes-là. Mais qui ne sont pas les systèmes les plus rigoureux. Donc je reviens à un sutra du bouddhisme primitif qui va donner un éclairage sur cette non-dualité, un éclairage un peu différent. Un moine s'approche du Bouddha, il s'appelle Kachayana, et puis il s'approche de lui et il lui dit on parle de la vue juste, vision juste de la réalité, mais c'est quoi au juste cette vision juste de la réalité? Il lui pose la question, hein. Toujours content quand des gens viennent poser des questions de manière essentielle comme ça. Et alors le Bouddha répond, il dit d'une manière générale, ce monde est soutenu par l'épaule de l'existence et de la non-existence. Mais si on voit le surgissement des phénomènes et du monde tel qu'il est réellement, avec discernement, la notion de non-existence ne vient pas à l'esprit. Si on voit comment les phénomènes cessent dans le monde, comment ils cessent réellement, à ce moment-là, avec discernement, la notion d'existence ne vient pas à l'esprit. Vous voyez ce qu'il a dit, deux choses très, c'est très structuré. Il dit, quand on voit que des choses apparaissent, on est là, on est dans un monde, des choses comme ceci, parler de non-existence, il n'y a pas de sens. Voilà, non, tout est vide, rien n'existe, etc. Ça semble en contradiction de voir tous les phénomènes qui surgissent, mais quand on voit aussi qu'ils disparaissent, de croire qu'ils existent vraiment, ça n'a pas de sens non plus. Et le grand maître Asanga va éclairer ceci. Il va dire, il faut savoir que le caractère du réel est constitué par la non-dualité, et par dualité, on entend existence et non-existence. Vous voyez, on est dans quelque chose d'encore plus rigoureux, c'est-à-dire que on parle pas de pas ceci, pas cela. Si par rapport à des expériences, par rapport à des phénomènes, on peut dire ça existe ou ça n'existe pas, ceci, on est déjà dans la confusion. Vous voyez, de dire que ça existe, dire que ça n'existe pas, c'est dans la confusion. C'est pour ceci que si on croit qu'on est bouddhiste puis qu'on dit ouais ça n'existe pas, c'est de la vacuité, etc. Nagarjuna dit clairement, il dit on est plus gravement atteint que les personnes qui croient que les choses existent. Tout d'un coup faire voilà ça n'existe pas, c'est toute vacuité. Mais ici on est dans quelque chose d'extrêmement subtil, c'est que cette non-dualité, elle dépasse le fait de pouvoir dire ça existe ou ça n'existe pas. Alors évidemment quand on veut questionner quelquefois ça vient, alors on questionne la notion du moi, il n'existe pas, il n'existe pas de la manière dont on croit qu'il existe, etc. Ou tous les phénomènes, mais donc on a vu l'autre soir que finalement le pourquoi est-ce que nous méditons, c'est afin de ne pas saisir. Toutes les traditions sont tout à fait d'accord. Pourquoi est-ce qu'on médite? C'est afin de ne pas saisir. Et j'ai expliqué que saisir, ça se faisait au moyen d'un concept. Il n'y a pas de saisie sans concept. Et maintenant, de dire qu'une chose existe ou qu'elle n'existe pas, c'est une manière conceptuelle de saisir. Dire ça existe, ça n'existe pas. Quand la difficulté ici, c'est de croire que quand on ne pose pas l'existence de quelque chose, on affirme sa non-existence. Vous me suivez? Quand on n'affirme pas l'existence de quelque chose, si on peut pas dire que ça existe, on va dire, alors tu dis que ça n'existe pas. On est dans cette opposition, et cette opposition est l'enfermement dans le concept, dans le langage. Le langage, il ne fonctionne que comme ceci. Ne pas pouvoir affirmer l'existence de quelque chose, ça implique la non-existence. Et c'est bien pour ça que Vimalakirti reste en silence, parce qu'il veut pas s'engager dans ce cheminement où le langage nous enferme, le langage est enfermé dans un monde d'opposition. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est pas son défaut, c'est au contraire sa manière de nous éclairer, mais c'est un enfermement. Donc, la méditation, pour avoir accès à l'inconditionné, etc., quelle que soit la manière dont on veut l'exprimer, nécessairement doit dépasser le langage, doit dépasser le concept. Si elle reste au niveau du concept, alors à ce moment-là, eh bien, le fait de pas pouvoir placer l'existence de quelque chose va impliquer sa non-existence. Le Bouddha le dit dans certains sutras, je parle ici des sutras les plus anciens, où il dit que le Tathagata, le Bouddha, n'a pas de point de vue. Il n'y a pas de point de vue. Nagarjuna l'exprime aussi, il dit « En moi, personne ne peut trouver d'erreur parce que je n'ai pas de point de vue. » Et ce n'est pas une manière d'avoir un autre point de vue que de dire « Voilà, moi j'ai le point de vue de ne pas avoir point de vue. » C'est qu'il n'a pas de point de vue parce qu'il ne se laisse pas réduire au langage. Donc toute la méditation, on l'a, je crois, complètement, on l'exprime chaque fois, n'est pas de réduire nos expériences au langage, au fait de dire c'est ceci, c'est cela, ou c'est pas ceci, c'est pas cela, mais au contraire, un trait de dépouillement où on essaie de ne pas s'appuyer sur le langage, parce que dans le langage, on va s'enfermer dans ces oppositions-là. Oui, une des manières, les grandes questions de la philosophie moderne, peut-être depuis Leibniz, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il semble que beaucoup de gens aiment se poser la question autour de ceci, qui donne évidemment des bouquins, commentaires de d'autres commentaires, mais du point de vue ici, de cette vision-là, du bouddhisme, refond du bouddhisme Madhyamaka, cette question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, est pleine de préjugés. Pleine de préjugés. D'abord, on pense qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on affirme. Il y a quelque chose. Et ensuite, on pense que rien et quelque chose sont en opposition. Oui, ils sont en opposition au niveau du langage. Au niveau du langage, alors il y a ou quelque chose ou rien. Mais dans l'expérience méditative, comme on va pouvoir faire l'expérience du monde, on ne pourra pas dire ça existe ou ça n'existe pas. On ne pourra pas dire dans cette expérience-là, ça existe ou ça n'existe pas. Les deux termes n'auront rien à dire par rapport à l'expérience méditative. L'expérience du réel dans la tradition bouddhique n'est pas réductible au langage. Et dans le fond, le langage est exactement ce qui nous enferme. C'est le langage qui nous conditionne, qui nous enferme. Il s'agira, si on veut ne pas tomber dans cet enfermement, ne pas tout référer au langage. Quand on revient sur ce sutra où le Bouddha dit dans la vision, il n'y a que la vision, dans l'audition que l'audition, etc., qui sont des formes primitives de méditation qu'on retrouverait dans le Zen ou dans le Dzogchen ou le Mahamudra, c'est bien ça, c'est qu'on reste dans une intimité à l'expérience avant qu'on n'en dise rien du tout. Dans cette simple manière d'être, où à ce moment-là, on ne pourra pas dire ça existe ou ça n'existe pas. On se rendra compte que de dire ça existe ou ça n'existe pas, c'est quelque chose d'extrêmement grossier pour exprimer quelque chose qui ne peut pas être saisi dans ces termes-là. Donc quand Vimalakirti garde le silence, c'est, je crois, pour désigner justement le fait qu'on ne peut pas réduire ceci, ramener ceci au langage. Si on veut le ramener au langage, à ce moment-là, on le ramène dans une autre sphère, il y a cette transposition, et puis on tombe dans cette opposition. On pourrait dire en aparté, on sort un peu ici de ce contexte-là, mais ce qui est quand même assez extraordinaire, cette opposition de quelque chose est ou n'est pas, est ceci ou n'est pas cela, qui est propre au langage, on pourrait dire au moi, bien plutôt sur quelque chose de psychologique, à cette structure du langage, n'est pas le propre de toute la conscience, parce que dans l'inconscient, les choses peuvent être en opposition sans même problème. Dans l'inconscient, une chose peut être une chose et une autre chose. Freud parle de ceci, c'est une grande richesse, que voilà, une chose, elle est ça, puis elle est son contraire, puis ça pose pas le moins de problème. On se rend compte, je me souviens d'une expérience dans un rêve, pas que je sois très créateur dans mes rêves, mais à chaque pas, je marchais avec une personne qui était autre, et c'était la même personne. Et je me souviens, après ça, je me suis dit, c'est quand même fantastique, et comment ça peut être? Ça n'a rien à voir avec la conscience, et ça posait pas le moins de problème. Donc cette manière de structurer, qui est à nouveau une manière très importante, quand les gens confondent les deux niveaux, on a des problèmes, donc c'est pas à nier, mais de pas croire que l'existence ou l'expérience peut être toute réduite au niveau de quelque chose qui est la cohérence, qui se passe au niveau du moi, du langage, qui est riche, mais qui ne peut pas rendre compte de toute la richesse de nos expériences. Voilà, si vous voulez, un petit peu cette approche de cette non-dualité. Donc, pour revenir juste à cette discussion entre bouddhistes et hindous et autres, c'est que pour les bouddhistes, le fait de placer cette non-dualité entre l'atman et le brahman, de parler de ce qui est ultime, c'est Satchitananda, donc vérité, conscience et béatitude. Pour les bouddhistes, on est encore dans une saisie de quelque chose. Qu'il s'agit d'aller plus loin, ça, on pourra dire que ça existe. C'est bien le premier élément, Sat, qui est la réalité. Et si on s'attache à ceci, même si, du point de vue des expériences méditatives, quelqu'un qui demeure dans ses expériences de Sat, Chitananda, quand même, il y a des bonnes vacances, quoi. C'est vraiment. Il ne s'agit pas ici de mésestimer ces expériences-là. C'est pas ce qu'on veut dire. On essaie d'avoir simplement la rigueur dans le développement et montrer ces distinctions qu'il s'agit de faire si on veut comprendre un petit peu ce dont il s'agit.